assez longtemps, on a regardé la circulation des savoirs essentiellement par les livres et la correspondance. Bon, de fait, aujourd'hui, j'ai surtout parlé de correspondance et de livres, mais en tout cas, il y a d'autres supports qui sont intéressants, aussi de l'histoire matérielle, par exemple. Alors, c'est pas quelque chose que je fais moi, mais je pense que ça vaut le coup de le signaler, et aussi pour la géographie. Alors, vous imaginez aussi pour la géographie, il y a les cartes, évidemment, en termes de support de savoir et de circulation du savoir, c'est important, et je vous montrerai quelques petites cartes, même si c'est pas des cartes qui ont circulé, vous verrez pourquoi. Et puis, par ailleurs, une autre chose qui m'intéresse, moi, dans de ce grand champ de la circulation des savoirs géographiques, c'est une attention, je dirais, un petit peu renouvelée sur la place de l'Italie. Alors, il faut le dire tout de suite, même si c'est évident, l'Italie, elle participa à ce qu'on appelle un peu par commodité les grandes découvertes. Hein, c'est-à-dire que c'est pas une des puissances, contrairement justement à l'Espagne, au Portugal, à l'Angleterre, à la France plus tard, ou à la Hollande, etc., c'est pas une des grandes puissances qui va mener une politique exploratoire, pas du tout. Bon, déjà parce que l'Italie, à ce moment-là, est divisée en petites entités. Moi, je m'occupe à une de ces entités qui est la République de Venise. Mais pour autant, c'est une perspective, moi, que j'ai essayé vraiment de mettre en évidence dans ma thèse. En fait, si on réfléchit un petit peu déjà différemment aux grandes découvertes, on se rend compte que l'Italie, elle a une place à part entière. Parce que, voilà, les grandes découvertes, avec tous les débats historiographiques, par ailleurs, qu'il y a sur la question auxquelles je fais référence uniquement dans la bibliographie, c'est pas des événements de voyage, ou c'est pas uniquement des événements de voyage. C'est vraiment si il était légitime d'utiliser le terme de découverte, c'est parce que il y a tout un... ça engage ensuite toute une rénovation, réflexion, réforme ou résistance éventuellement à toute une série de savoirs, de connaissances, d'informations qu'on va trouver dans d'autres lieux que les lieux habituellement fréquentés par les Européens. Et l'Italie, là-dedans, pas dans les voyages, mais dans tout ce qui va ressortir de ces voyages, disons, pour faire simple, elle a un vrai rôle. Elle a un rôle à part entière, et notamment un rôle de diffusion, de publication, de élaboration, de mise en forme, c'est un petit peu de résonance aussi, comme une caisse de résonance, si vous voulez, hein, comme s'ils étaient à l'arrière. Il y a ceux qui vont au front, il y a ceux qui sont à l'arrière et qui réfléchissent à ce qui se passe. Voilà. Encore une fois, un petit peu peut-être schématiquement, mais pour vous expliquer d'où part ma réflexion. Et la République de Venise, là-dedans, elle a un rôle un petit peu spécifique, puisque, là aussi, à grands traits, la République de Venise, elle a un passé, à ce moment-là, déjà un passé glorieux d'exploration, si on peut dire, en tout cas de voyage, surtout maritime, en Méditerranée, etc. C'est pas... peu l'objet des grands voyages qu'on appelle les grandes découvertes, qui vont bien au-delà de la Méditerranée, et donc elle se retrouve un petit peu en porte-à-faux, dans une espèce de splendeur passée, remise en cause pour plein de différentes raisons qui ne sont pas du tout uniquement ça en rôle dans les voyages, mais aussi des raisons économiques, politiques, enfin plein de raisons qui vont au-delà de ma présentation aujourd'hui. Mais elle a un petit peu un rôle ambigu, et c'est vraiment ça qui m'a intéressée, de à la fois avoir perdu sa place initiale dans cette capacité à connaître le monde, pour le dire un petit peu simplement, et en même temps, la volonté de continuer à le connaître, sans être peut-être elle-même organisatrice de ses voyages. Hein, vous voyez un petit peu cette situation, disons, paradoxale, mais intéressante. Et donc, d'une certaine façon, si on peut dire, c'est plus la représentation et les savoirs qui sortent des voyages auxquels je m'intéresse plutôt que les voyages eux-mêmes, voilà, pour vous présenter la chose de manière générale. J'en viens tout de suite à un premier point sur la géographie. Là aussi, on est dans des choses assez générales, hein, mais est lié à cette réflexion sur l'Italie une réflexion sur qu'est-ce que c'est la géographie, quel est l'intérêt de la géographie, et là, plus spécifiquement, vous allez voir, je me situe dans un champ plutôt politique. Quel est l'intérêt de maîtriser des savoirs géographiques dans le champ politique? Ça, c'est l'intérêt traditionnel, classique. Hein, la géographie, vous trouvez ça chez Strabon, au début, donc géographe dernier siècle avant Jésus-Christ, premier siècle après Jésus-Christ, si on peut dire. Donc Strabon nous dit, la géographie, c'est connaître, pour les hommes politiques, pour ceux qui sont dans la décision, c'est l'intérêt, c'est connaître la scène de nos actions, savoir où on va agir, d'un point de vue essentiellement militaire, on pourrait dire aujourd'hui avec un néologisme de gestion des territoires, etc. Alors, vous vous doutez que si je vous parle de Venise et des connaissances extra-européennes, donc en gros, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Amérique, l'Inde, l'Afrique, c'est pas la scène des actions des hommes politiques dont je vous parle. C'est pas eux qui vont sur le terrain, qui ont besoin de savoir les moindres recoins parce qu'ils vont devoir se battre et pouvoir agir sur ce territoire-là. Non. L'intérêt du savoir politique change, se renouvelle. Il y a du savoir géographique, excusez-moi. Il y a cet intérêt-là qui reste, évidemment. Hein. Venise, elle connaît et elle fait faire à ce moment-là des cartes très précises de son arrière, de sa terra ferme, hein, de sa terre ferme, de sa campagne, si vous voulez. Donc cet intérêt-là ne disparaît pas. Mais pour la géographie qu'on dit un petit peu généralement géographie des lointains, des terres extra-européennes, c'est pas ça. Hein. Mais, et c'est là que c'est intéressant, et là on est plutôt dans le domaine de l'interprétation, il y a moins cette fonction pragmatique, on ne va pas y agir dans ces territoires, mais il y a justement une question de maîtrise des savoirs et de maîtrise de la circulation des savoirs. Pour le dire là aussi différemment et peut-être un peu schématiquement, on s'intéresse du point de vue politique au savoir géographique pour démontrer, notamment pour démontrer sa capacité à maîtriser les savoirs, pour démontrer sa capacité à capter l'information et à en faire ce qu'on veut en faire. Donc si on veut la garder pour soi, c'est le cas, par exemple, c'est quelque chose qu'on a beaucoup reproché au Portugal, à juste titre ou non. Si on veut, au contraire, la publier, la diffuser, la montrer, eh bien, on peut utiliser différents biais, on va utiliser différents biais. Alors, le biais le plus évident, en Italie, c'est le paradoxe, je dirais. C'est-à-dire que l'Italie, elle met sur ses murs, et les murs de ses lieux de pouvoir, hein, là vous êtes Palazzo Farnese, une des grandes familles, alors plutôt deuxième moitié du XVIe siècle, enfin même pas d'ailleurs, vous avez le pape Paul IV, Farnese, Palazzo Farnese, bon là on est dans l'Astium, on n'est pas le Palazzo Farnese au cœur de Rome qui est aujourd'hui l'ambassade de France, mais voilà, vous avez des cartes. Pareil à Venise, là ça m'intéresse un petit peu plus. Si vous êtes allé visiter le Palais des Doges à Venise, vous avez cette Sala dello Scudo au premier étage où vous avez tapissé de cartes. Alors ici vous me direz, et je l'ai choisi exprès, évidemment j'en ai choisi deux, ici vous me direz, on est dans la conception de Strabon, c'est la scène des actions des Vénitiens. L'Adriatique, l'Égée, toute la Méditerranée orientale, encore au XVIe siècle, la Venise agit dans ces zones-là. Mais c'est la seule carte qui pourrait justifier, si vous voulez, cette conception traditionnelle dans cette scène-là. Celle-ci, et j'y reviendrai à la toute fin, c'est... Alors, il faut voir que ici le nord est en bas, hein, donc il faut un petit peu l'inverser mentalement. Vous avez d'un côté l'Asie, hein, vous reconnaissez peut-être l'Inde ici à droite, et puis de l'autre côté l'Amérique. Hein. Là, c'est plus... en partie peut-être à droite, ça l'a été un petit peu, parce que vous avez le tracé du chemin pris par Marco Polo, un Vénitien, ok, mais... Pour la plupart, cette carte, ce n'est pas la scène des actions des Vénitiens. En revanche, qu'est-ce qu'ils vont faire dans cette Sala dello Scudo, qui est l'antichambre, le lieu où le doge reçoit ses invités de marque, les ambassadeurs, etc. Il met sur les murs la connaissance que ça... Alors, il met... La République met sur les murs la connaissance qu'elle est parvenue à acquérir de ces lieux-là, qu'elle n'a pas elle-même visité. Elle le met à un moment donné où c'est extrêmement récent. Hein. Là, c'est... ces cartes ont été remaniées, refaites au XVIIIe siècle, mais elles datent de 1550. Donc on est vraiment dans le vif du sujet. Elles sont faites au moment où ont lieu les événements dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, pour entrer dans quelque chose de plus précis, ce que je vais développer aujourd'hui, c'est un exemple précis, justement, de cette circulation des savoirs. D'où ça vient, comment ça fonctionne et comment ça arrive à Venise et quel est le lien, moi c'est voilà, les filons qui m'intéressent là-dedans, c'est quel est le lien entre géographie et politique. Alors un tout petit peu plus précisément, là je suis obligée de rentrer au contraire dans du très détaillé pour vous expliquer de quoi je parle et de qui je parle, même si c'est Les problématiques d'ensemble sont les mêmes. Hein. Si vous voulez, moi, je prends un cas parce que c'est celui que j'ai étudié, mais on pourrait, enfin, il faudrait, j'espère le faire moi-même un jour, étudier ces mêmes enjeux, ces mêmes problématiques et voir comment elles se déclinent dans d'autres cas. Mais voilà le cas que moi, j'ai étudié, celui donc de Giovanni Battista Ramuzio, sur lequel j'ai fait ma thèse. Donc, vous imaginez qu'en 45 minutes, je pourrais en dire beaucoup, mais je ne vais pas le faire. J'ai essayé de faire 3 slides qui le concernent. Vous avez ces dates, ça vous situe. Alors, il est géographe, il a publié plusieurs volumes, certains dont je vais vous parler, qui sont essentiellement, mais pas que, des collections, des recueils de récits de voyage de ses quasi-contemporains ou contemporains, avec quelques aussi textes anciens, mais j'en parlerai pas aujourd'hui, donc des recueils de récits de voyage à visée géographique, hein, c'est explicite. Hein, le but, c'est la constitution des savoirs pour Ramuzio, hein, c'est ça qu'il va chercher dans ses récits de voyage. C'est donc des voyages qui ont effectivement eu lieu, si vous voulez, c'est pas des voyages fictionnels. Et par ailleurs, il est secrétaire de la République de Venise. Alors là aussi, si on devait expliquer institutionnellement comment fonctionne la République de Venise, ça serait assez compliqué, mais je vais vous dire juste deux choses pour bien comprendre. Et parce que ça fait partie aussi des enjeux pour comprendre ce dont je voulais vous parler, le secrétaire de la République de Venise, il n'est pas patricien, donc il n'a pas de pouvoir décisionnel, il n'a pas voix au chapitre, si vous voulez. Il est citoyen, c'est une autre classe à Venise à ce moment-là, et par ailleurs, il agit au sein de la chancellerie, au sein des institutions vénitiennes, normalement à titre anonyme, si vous voulez. C'est vraiment un fonctionnaire. Le modèle, je pense, le plus évident à comprendre, si vous voulez, c'est vous pensez à un ministère aujourd'hui, vous avez les fonctionnaires, ceux qui, plus ou moins, quelle que soit la majorité, sont là, et puis vous avez ceux qui sont élus sur des mandats temporaires. C'est le modèle vénitien. C'est pour ça qu'on appelle ça une république, avec toutes ses limites de ce que nous, on peut considérer comme étant une république, mais c'est bien une république, des mandats qui circulent. Alors que le fonctionnaire, lui, par exemple, Ramuzio, il va rester 52 ans en place, parce qu'il a exceptionnellement pour l'époque une vie assez longue et il fait toute sa carrière au sein de la République, dans la chancellerie. Voici donc son œuvre principale, celle pour laquelle il est connu, les Navigazioni e Viaggi, les Navigations et Voyages. Vous voyez, c'est vraiment le milieu du siècle, 1550-1559. Le dernier volume paraît quand il est déjà mort, il meurt en 1557. Ces 3 volumes, et là aussi, malheureusement, assez brièvement, parce qu'il y a plein de choses à en dire, enfin, en tout cas, moi, j'ai fait ma thèse dessus, encore une fois, donc j'ai plein de choses à en dire, les 3 volumes se découpent de la sorte. C'est une conception politique de l'espace. L'espace est dominé, alors avec plein de nuances possibles, hein. C'est pas dominé d'un point de vue, à mon avis, territorial, mais plutôt de, justement, capacité à connaître, capacité à explorer, capacité à visiter un espace. Hein. Il prétend pas, par exemple, que Venise domine la Norvège. Hein. Mais c'est un Vénitien qui a permis aux Européens, à ce moment-là, de connaître la Norvège par un naufrage dans les îles Lofoten. Voilà, pour vous donner un exemple précis, pour vous faire comprendre. Donc, il divise en 3 volumes tout son matériau textuel et il répartit cela en fonction des grandes puissances, de ce que lui considère comme étant les puissances européennes ayant rendu possible la connaissance de ces espaces. Nous, on va regarder essentiellement le volume 3 puisque c'est le volume consacré à l'Espagne et je vais vous donner un exemple là encore plus précis de circulation donc des textes et des savoirs, c'est-à-dire de comment Ramuzio en arrive à s'informer de certains voyages ayant lieu ou ayant eu lieu, à obtenir des textes, parfois de première main, d'autres étant déjà imprimés, mais imprimés parfois quelques jours, quelques semaines avant qu'il les obtienne, imprimés en Espagne, et puis à rentrer en contact, hein, correspondance notamment, avec certains des acteurs de ces grande découverte. Je laisse les guillemets hein, en quelque sorte, parce que, encore une fois, je ne vais pas évoquer ici tous les débats qui sont un petit peu... c'est pas un autre sujet, mais voilà, il faut choisir ces sujets, donc je ne vais pas parler du débat sur le terme en lui-même. Grande découverte, c'est pratique pour parler de ces voyages à ce moment-là, on voit de quoi on parle. Et puis, une dernière chose, alors si j'ai le temps et si les collègues hispanistes qui sont là ont quelque chose à en dire, je dirais aussi quelques petites choses à la fin sur ce qui me semble être peut-être une spécificité justement espagnole par rapport au Portugal dans ce que j'ai pu voir à travers les yeux de Ramuzio, hein, évidemment. Hein, moi, pour l'instant, en tout cas, tout ce que j'ai étudié, c'est par le biais de cette circulation des savoirs vers Venise. Pardon. Alors, donc plus spécifiquement encore, je vais vous parler de Ramuzio et d'un deuxième personnage, Andrea Navagiero. Alors, c'est le moins sexy des deux, si toutefois il y en a qui est sexy, hein, mais Andrea Navagiero, lui, c'est un patricien. C'est un patricien et c'est un ambassadeur de Venise qui va être envoyé entre 1524 et 1528 auprès de Charles Quint en Espagne. Il est patricien, donc il appartient à la couche supérieure de la République de Venise. Pour autant, c'est une famille assez pauvre, ce qui va lui poser des problèmes en tant qu'ambassadeur, puisque l'ambassadeur vénitien, en tout cas, devait subvenir à ses propres besoins. Je le précise juste parce que ça va être une des raisons de la correspondance, un des motifs de la correspondance dont je vais vous parler après. Par ailleurs, en plus d'être patricien, ambassadeur, c'est aussi un homme de lettres, un humaniste, un lettré, reconnu par la République elle-même, qui lui accorde certaines fonctions liées à ça. Il est pendant un temps historiographe officiel de la République. Il fait partie des premiers censeurs, c'est-à-dire les premiers qui vont être... avoir la responsabilité d'attribuer des licences d'impression, des autorisations aux imprimeurs. Il est en charge aussi, à un moment donné, du fonds bibliothécaire de Venise. Aujourd'hui, la Bibliothèque Marciana, si vous allez à Venise, c'est sur la place Saint-Marc, donc vous la voyez forcément, c'est en face du Palais des Doges. Il effectue donc une mission diplomatique en Espagne, dans une période 1424-1428, dans laquelle je ne vais pas rentrer parce qu'il y a des spécialistes bien mieux, plus spécialistes que moi, et aussi parce que c'est une période extrêmement compliquée des relations diplomatiques. Pensez simplement qu'il est en Espagne au moment du sac de Rome. Donc il est en Espagne à un moment, un des sommets de tension de ce qu'on appelle les guerres d'Italie. Hein, il représente Venise, qui fait partie quand même des grande puissance dans cet échiquier italien et européen, avec une Venise qui a eu plusieurs revirements, qui est passée d'un côté, de l'autre, voilà, j'en dis pas plus pour pas empiéter sur les plaidements de mes collègues, mais simplement pour vous dire qu'il est là dans une période politiquement, diplomatiquement cruciale. Ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, dans ses correspondances, dans ses dépêches officielles, en tout cas auprès du Sénat, donc auprès de l'institution vénitienne avec qui il doit conserver le contact pour dire ce qu'il se passe et puis pour recevoir les ordres et savoir quoi faire en tant qu'ambassadeur, il ne va pas s'en tenir à ces événements-là. Il va aussi accorder une place à d'autres événements, ceux auxquels je m'intéresse moi, qui sont liés aux explorations en Amérique, aux Indes occidentales ou orientales. Troisième chose, dans sa correspondance privée, qui est un petit peu plus encore celle à laquelle je me suis intéressée, parce que la correspondance privée de Navagiero pendant cette mission d'ambassade, c'est avec Ramusio qu'on en a des traces. Hein, on a 4-5 longues lettres. Ne jamais mentionner les questions politiques, diplomatiques, géopolitiques, comme on voudra les appeler en cours, et au contraire, s'intéresser à une érudition presque pure, je dirais, parfois vraiment pour l'amour de savoir, le goût du savoir. Hein, on est vraiment face à des hommes politiques qui sont aussi des érudits. Alors, Navagiero, je l'ai dit au début, il vient d'une famille pauvre. Il est obligé à plusieurs reprises de demander à la République de lui faire des avances, hein, de lui envoyer des sous, parce que sinon, il ne peut pas se permettre de suivre la cour, qui est en plus itinérante, donc ce qui engage des dépenses encore supplémentaires. Et notamment pour cette raison-là, il écrit en parallèle à Ramusio, secrétaire de la République de Venise, pour un petit peu lui demander d'appuyer ses demandes et pour insister lourdement sur ses difficultés économiques. Donc vous voyez, ce n'est pas anecdotique cette question-là, mais ça va être un des motifs pour lesquels il va écrire. Ce n'est pas le seul, parce que Navagiero, en fait, et il le dit très clairement dans ses lettres, lui, il n'a aucune ambition politique, ça ne l'intéresse pas, il le fait parce qu'il est patricien et que c'est un petit peu, si vous voulez, le devoir d'un patricien de représenter sa ville, d'être nommé sur des fonctions, etc. Lui, il n'aspire qu'à être chez lui dans son jardin, cultiver ses plantes et lire et correspondre avec ses amis érudits. Donc il est un petit peu pris entre ces deux feux, et ça transparaît très bien dans sa correspondance. C'est intéressant, et évidemment c'est intéressant en termes de circulation des savoirs, ce que je vais vous exposer ensuite. Une dernière chose par rapport à ce tableau que j'avais annoncé, alors vous l'avez peut-être vu, ou si vous n'êtes pas italieniste, je précise, Raffaello Sanzio, c'est Raphaël, hein. Donc c'est quand même pas n'importe qui le dépeint en 1516. Et pendant longtemps, je précise juste, on a pensé que le personnage de gauche était Castiglione. Bon, malheureusement, c'est pas lui. Mais je vous le dis parce que vous allez avoir une intervention sur Castiglione dans quelques mois, je crois. Ouais. Donc, voilà, je pense que Raffaele Ruggiero sait que c'est pas lui. Mais si jamais il mettait ce portrait-là, vous pourrez lui dire non. Enfin, c'est anecdotique et non. C'est-à-dire que, si vous voulez, on est vraiment en face. Alors, pour les italianistes, hein, Castiglione, c'est des grands noms, vraiment, de l'humanisme. Hein, et tous ces gens-là, un autre personnage qui les relie, même si je ne vais pas en parler aujourd'hui, c'est Bembo, Pietro Bembo, qui est pratiquement, à l'époque, une des sommités intellectuelles italiennes. Donc, voilà, c'est en termes de connaissances, de circulation des savoirs, on est sur des personnes de très haut niveau, de très haut rang, qui en même temps ont donc des fonctions politiques. Hein, et c'est pour ça que, ne serait-ce que de ce point de vue-là, il y a quelque chose à regarder. Et moi, c'est ça que je regarde, avec, encore une fois, l'approche plus spécifique sur le savoir géographique. Alors, j'en viens à des choses un petit peu plus concrète, sinon le temps tourne, je vais vous expliquer ce que je veux vous expliquer. Quelles sont les sources? Alors, pour ceux, celles d'entre vous qui ont plutôt qui sont dans une formation d'historien, il faut toujours se demander, bon, ok, mais quelles sont les sources? Comment on sait ce qui s'est passé pendant cette mission d'ambassade? Moi, les sources auxquelles je me suis intéressée pour la mission d'ambassade de Andrea Navagero en Espagne, ce sont des sources contenues, consignées dans les archives d'État, donc vraiment ceux qui l'envoyaient en tant qu'ambassadeur au Sénat, je l'ai dit tout à l'heure, donc s'il envoyait aux institutions. Il y a une source un petit peu parallèle qui est spécifique, je crois, à Venise, mais qui est extrêmement intéressante pour les historiens, qui sont les journaux en, je crois que c'est 30 ou 36 volumes, d'un sénateur un petit peu aigri, si vous lisez certains extraits, vous le comprenez vite, qui prenait tout en note. Donc comme une sorte de source parallèle, avec évidemment une visée informative, il voulait consigner et être sûr de savoir tout ce qui s'était passé dans les séances du Sénat, mais en même temps avec, de temps en temps, ses avis, ses ajouts, ses commentaires. Hein, et je vous le dis parce que je vais vous en montrer un petit exemple. Il y a, par ailleurs, dans les sources du Sénat, en tout cas la République de Venise, c'est une retranscription des séances dont on dispose. Les originaux, si vous voulez, dans ce cas-là, sont ailleurs, dans d'autres archives à Treviso. Ce sont les dépêches, donc vraiment les courriers envoyés, qui sont là aussi pas tant une retranscription que la version consignée par Navagero ou par son secrétaire pendant la mission d'ambassade. En tout cas, ce que lui, il écrivait. Donc vous voyez, c'est à peu près les mêmes choses, mais avec à chaque fois des perspectives ou probablement des petites différences dans la retranscription. Il y a sa relation d'ambassade. Alors ça, c'est quelque chose qui, à l'époque en tout cas, est plutôt spécifique à Venise, mais extrêmement important en termes de sources historiques. C'est les relazioni, on les appelle souvent avec le nom italien parce que c'est une telle spécificité, une relation, un compte-rendu, hein, on dirait aujourd'hui, que tout ambassadeur devait faire à la fin de sa mission d'ambassade quand il revenait à Venise. Et à ce moment-là, depuis 1523, il y a même des règles très précises, puisque les ambassadeurs avaient tendance, on devine d'après les règles énoncées, à ne pas toujours faire ce qu'ils devaient faire. On leur indique dans quel délai, sous quelle forme, ils doivent d'abord faire une version orale, puis consigner une version écrite, etc. Il y a en fait aussi un petit peu une certaine méfiance, d'un certain côté. On essaie d'encadrer le plus possible ces ambassadeurs. Il y a deux autres sources encore. Donc, vous voyez, sur une seule mission d'ambassade, plein de choses, plein de visions différentes. Il y a un itinéraire, un récit de voyage, lui qui a été publié ensuite dans les années 60, 1560 à Venise, donc tiré de la mission de Navagero, mais pour lequel on ne dispose plus de l'original autographe. En tout cas, on a des versions manuscrites, mais pas l'autographe. Et puis, donc, je disais, les cinq lettres envoyées par Navagero à Ramusio, là aussi, dont on dispose dans une version publiée des années 50 et non pas dans leur version autographe. Donc là aussi, voilà, c'est peut-être qu'il y a eu un remaniement, mais on ne peut pas comparer avec leurs originaux. De tout ça ressort qu'il y a un intérêt diffus, fréquent de Navajero, enfin, en tout cas, il y a une présence récurrente d'indications concernant le savoir géographique sous différentes formes. Soit il retranscrit des scènes auxquelles il a pu assister, je vous donnerai quelques exemples, soit il indique les personnes avec qui il a été en contact. Il est notamment en contact, il a rencontré à plusieurs reprises Pietro Martire d'Anghiera, Pierre Martyr d'Anghiera, qui est à ce moment-là quasiment, je ne sais jamais compris s'il avait vraiment eu ce statut, mais quasiment historiographe officiel, hein, et notamment chargé de retranscrire, de raconter, de mettre par écrit tout ce qui provient des Indes occidentales, tout ce qui provient de l'Amérique. Dernière chose qui transparaît très clairement dans ses lettres, il a la capacité à obtenir des textes, je vous le disais en introduction, soit déjà imprimés, soit, on pense pour certains, inédits. Hein. Et il promet à plusieurs reprises dans ses lettres à Ramuzio de lui rapporter ou de lui faire passer des textes. Et il précise bien, comme tu me l'as demandé, hein, si vous voulez. Alors, c'est pas ces mots-là, mais on comprend que c'est à la demande de Ramuzio. J'ai dit tout à l'heure, Ramuzio, il est secrétaire. Il est donc, normalement, dans le fonctionnement normal, théorique des institutions vénitiennes, anonyme. Ce qu'il fait, il ne le fait pas en son nom, mais il le fait en au nom de sa fonction. Or, grâce à des sources comme celle de Sanudo, qui, lui, ne fait pas un registre officiel, mais fait un journal dans lequel il peut écrire un petit peu ce qu'il veut. Il est sénateur, il assiste et il marque, il transcrit, il écrit ce qu'il veut de séances qui ont lieu. On sait que, par exemple, toutes les discussions qui vont avoir lieu au Sénat pendant la mission d'ambassade de Navajero, elles se font en présence de ce secrétaire Ramuzio, nous précise Sanudo, su amicissimo, son très grand ami. Et notamment, là, ici, c'est justement une demande de rallonge de 200 ducadors. Pourquoi c'est intéressant? Parce que, normalement, le type de motion, de requête, qui est là, lu par Ramuzio, n'aurait pas dû être lu par un secrétaire. Donc, moi, dans mon intérêt pour quel rôle, quelle place avait quelqu'un comme Ramuzio dans les institutions, je me rends compte déjà là, première preuve, qu'il avait un rôle qui sortait du cadre normal, habituel. Ce qui ne veut pas dire que c'était exceptionnel pour lui, mais ce qui veut dire que les règles écrites de l'institution n'étaient pas toujours respectées. Ce que, en tant qu'historien, on peut souvent soupçonner, mais on n'en a pas forcément la preuve. Là, on en a une preuve qui est celle de la retranscription de Sanudo, une autre qui est ce que j'ai fait en partie pendant mon travail de thèse, c'est-à-dire que j'ai épluché les sources d'archives de cette époque-là pour les institutions auprès desquelles Ramuzio travaillait, et je suis allée chercher les traces graphiques de sa présence, c'est-à-dire les textes, les retranscriptions écrites de sa main. Il y en a beaucoup, et notamment, effectivement, ça recoupe en partie ce que dit Sanudo, c'est-à-dire qu'effectivement, dès qu'il est question de Navajero, c'est Ramuzio qui s'en occupe. Une exception, une anomalie, si vous voulez, qui montre qu'il il a un certain pouvoir ou une certaine place qu'il prend qui va au-delà de sa place théorique, en tout cas. Alors, en soi, c'est intéressant, mais ça ne nous apporte pas grand-chose sur la circulation des savoirs. Moi, ça m'intéresse vis-à-vis de la circulation des savoirs géographiques parce qu'il y a une vraie ambiguïté, en fait, dans ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que Navajero va recueillir, rassembler, envoyer à Ramuzio, là, Ramuzio, mon ami, hein, son ami, pas Ramuzio, le secrétaire de la chancellerie, toute une série d'informations, de textes, de contacts directs avec des personnes ayant voyagé aux Indes occidentales ou, en tout cas, ayant eux-mêmes la fonction de recueillir des témoignages de ces voyageurs. Il lui envoie tout ça hors cadre institutionnel, si vous voulez. Il lui envoie tout ça à titre amical, de collaboration érudite, d'intérêt commun pour le savoir, etc. Mais de l'autre côté, si vous voulez, c'est un peu comme s'il y avait deux filons parallèles, mais de l'autre côté, on a les preuves d'un brouillement des pistes. On a les preuves que leur relation purement institutionnelle de secrétaire à patricien est déjà elle-même un petit peu ambiguë, puisque Ramuzio, dans ses fonctions, prend un rôle qui va au-delà de celui qu'il devrait avoir. Donc, mon hypothèse, c'est de dire à quel point cette demande d'information, de connaissance, de savoir, théoriquement faite à titre personnel par Ramuzio Navajero, n'est pas elle-même avaliser, comment je peux dire ça autrement, avaliser, c'est pas très joli, en tout cas bénéficie d'un regard bienveillant peut-être de la République, voire est une demande, un intérêt de la République, des institutions elles-mêmes, qui ne peuvent pas le formuler tel quel. C'est un peu l'hypothèse, si vous voulez, c'est un peu le... Voilà, où se trouve exactement la marge entre le Ramuzio secrétaire et le Ramuzio géographe. S'ajoute à ça le fait que, je l'ai dit, je crois, en tout cas je vais le redire, dans les sources dont on dispose sur cette mission d'ambassade de Navajero, dans toutes les sources, je vous ai dit, il y en a vraiment nombreuses et différentes, il est dans toutes, il est question des voyages des Espagnols, voilà, l'Amérique, encore une fois, pour le dire un petit peu simplement, et pas comme on le disait à l'époque, mais il en est question sur différents sujets et à propos de différentes choses. Mais il en est, d'une part, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus question dans les lettres que Navajero va écrire à titre personnel à Ramuzio. Et aussi, on n'en parle pas exactement de la même façon. Essentiellement, dans les dépêches officielles, dans les textes officiels, Navajero va en parler, alors soit sur des questions purement économiques et financières, ce qui était un classique, je dirais, des ambassadeurs vénitiens. On disait, on faisait un petit peu un état des lieux de la situation de la couronne, et dans les revenus de la couronne, il y avait les revenus en provenance des Indes. Voilà, bon, ça c'était un peu, si vous voulez, le service minimum. Il va en parler aussi dans ses dépêches officielles de manière très critique. C'est-à-dire, j'ai vu des choses à la cour, et je vous les raconte tout en les racontant pour en démontrer un petit peu, pour aller au-delà de ce que les Espagnols croient eux-mêmes ou essaient de nous faire croire. Deux exemples extrêmement parlants à propos d'un animal. Il raconte différentes choses qu'il a vues et il dit « L'animal n'est pas un tigre, comme ils le disent, mais une panthère et elle est très belle à voir. » Intéressant parce que, approche critique, attention, méfiance, qu'est-ce qu'il nous raconte, à quel point c'est extraordinaire ce qu'il rapporte de là-bas. Moi, je vais au-delà et je vous dis ce qu'il en est vraiment. Ce n'est pas une panthère, mais ce n'est pas un tigre, mais une panthère. Et deuxième chose intéressante, évidemment, là, on comprend que Navajero, notre ambassadeur, il a une vraie érudition, il a une vraie capacité à connaître. Il est effectivement... Alors, il a des connaissances très précises en botanique, il a des connaissances très précises en zoologie, il a des connaissances également, vous voyez ensuite, sur les métaux précieux. Et là, c'est encore plus parlant, je crois, cette approche, ce regard critique qu'il va porter sur les informations partagées à la cour, parce que là, c'est sur les métaux, ce qui est une des raisons, voire la raison, qui justifie toute cette politique exploratoire. C'est l'or. Or, il dit, à propos d'une pièce d'artillerie qui est rapportée d'Amérique, on ne voit pas que ce soit en argent ni en or, mais cela semble être un mélange pire que l'étain. Donc là aussi, moi, Andrea Navajero, j'ai bien observé la chose et je peux vous dire que c'est de la poudre aux yeux, comme on dirait aujourd'hui. Donc une approche assez critique qui est beaucoup moins évidente dans... les récits qu'il fait. Et là, on est vraiment dans une description qui, à l'époque, est une description typique d'histoire naturelle, ce qu'on appelle aujourd'hui la science, encore une fois, de la botanique, essentiellement, là. Il décrit deux choses. Alors, la première, c'est très clairement les pommes de terre, une variété, en tout cas, de pommes de terre, qui... vous le savez peut-être, est découverte, ramenée à ce moment-là, on ne connaissait pas en Europe. Ces racines qu'ils appellent batatas, ils utilisent encore la terminologie espagnole, il n'y a pas encore de terme italien, c'est pour ça que j'ai gardé, même dans ma traduction française, ce terme-là, et je les ai mangées, elles ont le goût des châtaignes. Comment on fait pour décrire une réalité nouvelle? On va chercher des points de comparaison avec une réalité connue de son interlocuteur. Exactement le même exemple dans le deuxième cas. Alors, j'ai mis l'ananas, point d'interrogation. Je ne sais plus. Il faut que j'aille revérifier si c'est bien ça dont il est en train de parler. En tout cas, il est en train de parler d'un fruit qui n'est pas connu par son interlocuteur Ramuzio. Un très beau fruit qui a à la fois un goût de coing et de pêche et qui ressemble aussi un peu à un melon. En titre de cette slide-là, parce que c'est extrêmement intéressant, j'ai vu beaucoup de choses des Indes. C'est-à-dire que là, et c'est là qu'on est presque dans l'histoire matérielle, même si moi, je n'en fais pas, à la cour, quelqu'un comme un ambassadeur peut plus que voir, vous voyez là, mais c'est même goûter, c'est-à-dire vraiment il y a une expérience de première main. Il n'a pas voyagé, Andrea Naviero, aux Indes, mais c'est presque comme si, hein, il a vu des animaux, bon malheureusement certains morts parce qu'ils n'ont pas survécu au voyage, mais pas tous, il a goûté des produits, des pommes de terre, des fruits, etc. Hein, donc il a une expérience de première main que là aussi il va partager immédiatement donc, dans ses lettres à Aramuz, et il va vraiment le partager sur un modèle qui est vraiment le modèle du récit de voyage, c'est-à-dire du récit de voyage de ce moment-là, c'est-à-dire les comparaisons avec des choses que mon interlocuteur peut connaître, hein, et puis aussi, et c'est très important, j'ai fait par ailleurs des études là-dessus, la revendication de l'expérience. Hein. Ça, je vous le dis parce que je l'ai vu, ça parce qu'on me l'a dit, et si on me l'a dit, je vais même, dans la mesure du possible, préciser la fiabilité de ma source, on me l'a dit, et lui-même, c'est quelqu'un qui l'a vu ou pas, etc. Hein, donc la dimension expérimentale est explicite, je dirais. Ça ne veut pas dire qu'avant, on ne faisait pas forcément l'expérience de ce qu'on racontait, mais on faisait moins clairement la part des choses entre dans l'origine de l'information qu'on livrait à son lecteur ou à son interlocuteur dans le cadre du récit de voyage. Oui, peut-être pour synthétiser là-dessus, quels sont donc les éléments dans les observations critiques, vous voyez, c'est tellement, hein, on a un regard tellement acéré sur la situation que qu'est-ce qu'il nous dit, hein. Alors là, c'est des observations critiques, je vais au-delà de ce qu'il me montre et j'essaie de vraiment voir ce qu'il trouve aux Indes, mais là, c'est carrément critique politique, hein, politique interne. Hein. On craint que ces dissensions, les dissensions entre les différents conquistadors, je ne m'y arrête pas aujourd'hui, entre de très nombreux Espagnols, donc conquistadors, ne fassent qu'à la fin, ils perdent l'Inde. Hein. Il y a une telle dissension politique interne à ceux qui sont en train d'explorer et de conquérir ces nouveaux territoires sous domination espagnole, qu'il y a un risque d'implosion politique, institutionnelle de ce qui est mis en place en Amérique. Donc, vous voyez, et là, à nouveau, on est, alors c'est les sources qui sont à Trévise, donc c'est les sources plutôt, j'ai dit, institutionnelles, hein, le regard critique politique dans ces sources-là. Donc il y a un petit peu une distinction des informations qu'on va envoyer. Et puis, je l'ai dit, une dernière chose extrêmement importante, il y a plusieurs textes rapportés d'Espagne ou envoyés depuis l'Espagne à Ramuzio pendant, donc toujours évidemment, cette mission d'ambassade. Les trois derniers, on en est presque sûr, et ce sont des textes imprimés. Mais des textes imprimés en Espagne qui viennent juste d'être imprimés. Hein. Pour certains, on peut presque imaginer, Navagiolo, les obtenir à la sortie de l'imprimeur, parce qu'ils sont imprimés dans des villes, vraiment dans le mois où il y est passé, si vous voulez. Donc c'est l'extrême nouveauté éditoriale, en tout cas. Ça, c'est pour les sources publiées dans volume 3 des Navigazioni e Viaggi. Pour les sources espagnoles, et quelques sources espagnoles, ou qui en lien avec l'Espagne, là je ne peux pas détailler ces sources-là aujourd'hui, les deux manuscrits, on pense, mais c'est une des hypothèses. Le problème de ces manuscrits-là, c'est qu'ils sont inédits. Ramuzio va être les premiers à les publier et on n'a pas les manuscrits dont il a lui-même tiré le texte pour ses impressions. Donc il y a plusieurs hypothèses. Une d'entre elles, effectivement, c'est que ces deux textes-là aient également été rapportés d'Espagne par Navagiero. Une autre hypothèse pour certains de ces textes pour lesquels on n'est pas sûr de la provenance, j'en parlais tout à l'heure avec Loane, c'est un ambassadeur espagnol à Venise, qui n'est pas n'importe qui, puisque c'est, alors pardonnez la prononciation, mais Diego Hurtado de Mendoza, qui est le frère de Antonio de Mendoza, un des vice-rois de l'Amérique. Donc, en fait, pour mon propos, si vous voulez, pour retomber sur mes pieds, que ce soit Navagiero ou pas, finalement, j'en viens à la même conclusion sur cet aspect-là, c'est que les réseaux diplomatiques, c'est-à-dire les ambassadeurs envoyés par Venise à l'étranger ou les ambassadeurs reçus par Venise à Venise, sont des pourvoyeurs de textes pour Ramuzio. Et là encore, j'en viens à cette l'habilité entre institution et travail érudit à titre privé pour vous dire que voilà, mon hypothèse, c'est celle d'une interpénétration entre ces deux intérêts. Il y a même un cas, alors là aussi un tout petit peu complexe. Moi-même, j'ai mis assez longtemps à en faire le tour, à comprendre. Il y a même un cas dans les années 30, où, puisque, et ça va être mon dernier point sur les textes, en tout cas, Ramuzio, dès les années 30, publie certains des textes rapportés par Navagiero, notamment le Sommario de Oviedo. Il le publie dès les années 30. Son nom n'apparaît pas, mais on est sûr à 99% aujourd'hui que c'est lui l'éditeur de ce texte-là. Et dans ces mêmes années-là, entre 34 et 36, il publie même probablement un texte espagnol dont il a entendu parler. Alors là, vous allez voir, c'est quasiment de l'espionnage industriel, on dirait aujourd'hui, dont il a entendu parler parce que Ramuzio, comme ce que je vous disais au tout début par Navagiero, est engagé, là, d'un point de vue institutionnel, dans ses fonctions, dans ce système de censure de l'édition. C'est-à-dire qu'un éditeur n'avait pas l'obligation, mais on lui recommandait fortement de demander une licence d'impression ou un privilège d'impression pour toute impression publiée à Venise, donc à demander auprès de la République. Ramuzio relit, il était relecteur, c'est-à-dire qu'il lisait les textes soumis à licence pour voir si la République allait leur accorder ou non. Il relit un texte et lui-même est éditeur de ce texte avant que ce texte-là ne soit publié. Donc, un texte sur la conquête du Pérou. Donc, vraisemblablement, là, on est vraiment dans le domaine de l'hypothèse, c'est des textes, pour certains, publiés sans nom d'éditeur. Hein. Donc, il semblerait que ce soit Ramuzio qui l'ait édité, et je suis sûre, ça j'ai les preuves dans les sources d'archives, que c'est lui qui avait relu ce projet d'édition qui n'était pas le sien, qui était celui de quelqu'un d'autre. Mais l'intérêt est tel qu'il le publie avant même celui, le pauvre, qui avait fait la démarche officielle de demander la licence. Donc vous voyez à quel point il y a cette interpénétration du point de vue des privilèges d'impression. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont vraiment évidentes. Et parfois un petit peu compliqué. Alors, donc, du point de vue de la mission d'ambassade de Navagiero, pour synthétiser sur la question de la circulation des savoirs en quelques mots, voilà, il y a cette circulation parallèle, cet intérêt. Il y a un intérêt authentique, ça c'est sûr, de Navagiero individu, je dirais. Un intérêt peut-être un peu moins fort du Navagiero ambassadeur, parce que c'est pas tant ça qu'attend la République. Hein. Ses prédécesseurs, pour la plupart, ne parlent même pas de l'Amérique, si ce n'est, je vous ai dit, pour cette ligne, demi-ligne, qui explique combien d'argent ou d'or la couronne a pu en retirer. Il y a un intérêt authentique de Ramuzio et Navagiero en tant que correspondant de Ramuzio. Et d'ailleurs, leurs lettres, elles sont bourrées d'informations, mais de tout. C'est vraiment des gens qui s'intéressent à tout. Il lui parle des chèvres d'un berger qu'il a rencontré localement qui a expliqué des choses sur ce que les chèvres font à cet endroit-là. Enfin, tout ce qu'ils peuvent avoir comme savoir, c'est vraiment des érudits. Hein. Le savoir concernant l'Amérique, les Indes occidentales, le Nouveau Monde, il est d'autant plus présent que, je le disais, ça apparaît d'après les lettres envoyées par Navagiero, Ramuzio le lui a demandé. Hein, plusieurs fois, il dit « comme vous me l'avez demandé, à votre demande », etc. Et une dernière chose là-dessus, donc, il y a aussi une circulation, non pas uniquement des savoirs, des informations, mais vraiment des textes, et des textes, donc, je disais, pour certains qui ensuite sont publiés, parfois publiés à Venise, alors qu'ils n'ont jamais été publiés ailleurs. Pour finir là-dessus, Oviedo, qui lui est en poste dans les Caraïbes, il va entrer en contact avec lui, Navagiero, et ensuite, par ce biais-là, Ramuzio, et ça sera vraiment un correspondant de Ramuzio, ils vont même créer une société commerciale ensemble, mais c'est un autre sujet. Anghiera, Pierre Martyr, je vous en parlais tout à l'heure, pareil, c'est un correspondant indirect là, de Ramuzio par le biais de Navagiero. Ces deux publications-là, c'est Ramuzio qui les fait paraître en 1534. On attend 1534 parce que entre-temps, Navagiero, le pauvre, est renvoyé dans une nouvelle mission d'ambassade en France. Il y décède. Il y a des questions d'héritage avec son frère. Le temps que ça se débrouille, je dirais. Voilà, les publications ne sont pas immédiates, mais c'est bien des textes et des personnes qui sont revenus, des contacts qui sont revenus avec lui de sa mission d'ambassade. Revenus au sens, non pas propre, propres dans ses bagages, mais vous voyez, qui sont passés par là. Une dernière chose sur les textes. Ça, c'est une étude que j'ai faite assez récemment, qui n'est pas forcément encore dans sa formalisation très claire, mais je vais vous en dire juste quelque chose, parce que je crois que c'est assez visuel. Moi, je me suis dit, mais finalement, je dis, voilà, les Vénitiens, l'Italie, ils ont un petit peu cette position paradoxale dans les grandes découvertes de devenir des caisses de résonance. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Est-ce qu'on peut le schématiser? Alors, c'est une tentative, hein, elle a ses limites. Là, c'est basé sur le travail d'un collègue, c'est même pas moi qui ai fait le travail de recherche, hein, je le dis en toute honnêteté, qui a travaillé sur la présence des livres de géographie dans les collections de livres. Alors, c'est des sources très partielles, hein, on ne sait pas toutes les collections de livres de toutes les bibliothèques qui existaient à ce moment-là. Mais dans les sources qui nous informent sur les collections de livres en Europe, voilà où sont présentes les Navigationi Viaggi. Vous voyez qu'évidemment, alors c'est une représentation géographique, hein, vous voyez, il faut imaginer l'Espagne, la France, l'Écosse, hein, Holyrood c'est en Écosse. Ramusio, pardon, par les Navigationi Viaggi, a un vrai impact dans la diffusion de ces textes. Déjà au XVIe siècle, ils sont au moins présents dans toutes ces collections-là, donc dans différents endroits d'Europe. Et dans le même travail, je me suis intéressée à la provenance. Et là, c'est là que je disais, peut-être les collègues hispanistes pourront s'intéresser ou m'apporter des informations supplémentaires. Pour le volume 3, le volume consacré à l'Espagne des Navigationi Viaggi, je me suis dit, il y a des contexte de production, c'est-à-dire dans l'idée de Ramusio, ces puissances européennes qui ont rendu possible la production de ces textes, donc en gros des explorations conduites ou commanditées par les Espagnols, je les rattache à l'Espagne, des explorations commanditées par les Français, je les rattache à la France. Il y a trois textes sur la France à la fin du volume 3, mais là, ce qui m'intéresse, c'est surtout l'Espagne. Et ensuite, les provenances effectives. Le lieu depuis lequel, de ce qu'on sait, on ne sait pas toujours, Ramusio a obtenu ces textes. Ce qui est intéressant pour ce volume 3 et pour les sources espagnoles, c'est qu'il y a une homogénéité. Les textes espagnols, il les obtient depuis l'Espagne. Vous me direz, bah oui, d'accord, merci, ça valait le coup d'y passer des heures pour arriver à cette conclusion. Mais ce n'est pas si évident, parce que pour le Portugal, vous avez les provenances effectives, les contextes de production, Portugal, qui est très différent des provenances depuis lesquelles Ramusio obtient ses textes. C'est-à-dire que les textes portugais, dans l'ensemble, il les obtient par d'autres biais que le Portugal. C'est des textes qu'il obtient par parfois Louvain, aujourd'hui en Belgique, parfois par la France, parfois on ne sait pas, parfois par d'autres villes italiennes, etc. Alors que il me semble que la particularité là de ces provenances espagnoles, c'est qu'elles sont, c'est des textes qui circulent en Espagne, pour le dire autrement, qui sont plus ou moins connus en Espagne, mais en tout cas qui circulent en Espagne, qui sont bien présents. Et autre chose que j'ai trouvée assez marquante, mais là, j'ignore, je connais rien du monde éditorial espagnol de ce moment-là. Autre chose, elles sont publiées, parfois c'est des manuscrits, parfois c'est des imprimés, mais quand c'est des imprimés, ils sont publiés dans les lieux extrêmement divers. Il n'y a pas vraiment, dans les sources de Ramusio, hein, je ne dis pas que c'est une règle générale, de ville qui a l'air de se spécialiser dans la publication, dans la production de livres imprimés, du savoir géographique en provenance d'Amérique. Et vous voyez, hein, toutes ces villes, pour la plupart, sont des villes où au moins un des textes de Ramusio a été imprimé, et c'est de là qu'il l'a obtenu. Et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant, toujours dans ma comparaison, notamment avec le Portugal, parce que on voit qu'il y a vraiment une prolifération de ces textes. Parfois, par exemple, les textes de Cortés sont publiés dans 3, 4, 5 villes différentes d'Espagne. Hein, donc il y a vraiment une grande quantité de villes, peut-être pas d'imprimés, je ne sais pas, après il faudra aller voir chacun des ouvrages combien de fois il a été imprimé, mais là il y avait, c'est quelque chose encore une fois assez récent, hein, auquel je me suis intéressée, mais il me semble qu'il y a il y a une prolifération qui est intéressante. C'est-à-dire que quand on parle, pour le rattacher à des problématiques plus générales, de contrôle de l'information, de contrôle de la circulation, de contrôle de la diffusion, en tout cas, a priori pour l'Espagne, il n'y a pas un contrôle du monde éditorial sur ces sujets-là. Ou au contraire, peut-être, mais là aussi c'est une hypothèse qu'il faudrait tester, est-ce que c'est une autre forme de contrôle que celle de inciter à la publication, parce qu'on a envie que ces savoirs se circulent, hein, qui est un petit peu, a priori, la démarche inverse du Portugal, où on est plutôt dans la rétention de ces informations-là. Hein. Vous voyez, donc là, c'est encore vraiment, je le disais, plutôt des hypothèses et des pistes auxquelles je me suis intéressée, pour l'instant, par le biais de Ramusio, donc en plus, par le biais de textes qui n'ont pas vocation à être représentatif, hein, c'est les textes que lui a ensuite choisi de publier dans les Navigations IVAG. Enfin, lui, pardon, pour le dire autrement, pour lui, elles ont vocation à être représentatives, mais elles ne le sont pas nécessairement pour nous aujourd'hui. Hein. Il y en a plein d'autres que lui auxquels il n'a pas eu accès et donc il n'a pas lui-même publié. Voilà, là c'était un petit peu plus brouillon, pardon, parce que je vous dis, c'est des choses plutôt récentes auxquelles je m'intéresse. Une dernière chose pour revenir et conclure à cette fameuse Sala dello Scudo, donc au Palais Ducal, au Palais des Doges à Venise. Alors, pour le souci simplement de lisibilité, vous voyez, j'ai fait l'effort de renverser, voilà. Aujourd'hui, on la verrait comme ça, non pas sur le mur, mais on la verrait comme ça au sens où aujourd'hui, par convention, on représente généralement le nord en haut. Donc, c'est un petit peu plus parlant. Vous reconnaissez peut-être mieux d'un côté, donc l'Asie, l'Inde, et puis de l'autre côté, les terres là du nord de l'Amérique. Hein, vous avez la Californie, hein, ici. Qu'est-ce que c'est cette... pourquoi conclure sur cette carte ? Parce que dans la perspective de Ramusio, et, qui a lui-même, et là j'ai pas le temps de développer non plus, été impliqué très fortement dans la réalisation de ces cartes au milieu du XVIe siècle, cette carte est, à mon avis, représentative de la façon dont il concevait l'espace et l'intérêt de la connaissance de l'espace. En fait, cette carte, bon, au-delà du nord en haut, hein, ça c'est pas du tout... original à l'époque, au contraire. Enfin, la question d'où on mettait le nord, il y a plein de choses, c'est pas encore figé à ce moment-là. Ce qui est original de cette carte, c'est qu'elle est concentrée, même s'il y a un écriteau au milieu, mais il faut bien imaginer que là, c'est l'océan Pacifique. Et en fait, c'est vraiment typique de la conception de l'espace de la mousse, c'est des espaces de domination. L'océan Pacifique est un espace qui, dans sa représentation, est plutôt de domination espagnole. C'est ce qui est vrai encore à ce moment-là, enfin en 1550, hein, ce sont les puissances espagnoles qui ont permis de le découvrir. Et cette représentation, même si elle a été ensuite remaniée au XVIIIe siècle, comme je disais, elle est à ce moment-là, au moment où elle est produite, vraisemblablement, pendant une période probablement assez courte, hein, mais une des représentations les plus à jour, les plus récentes de ces espaces-là, de ces zones-là du monde. Comment elle est faite ? On a la commande qui est passée au cartographe qui va la faire. On sait, on lui donne une liste de textes sur lesquels il doit s'appuyer. La liste des textes, c'est... en grande partie les textes publiés dans les Navigazioni e Viaggi. Et une dernière chose, parce que je parle de circulation des savoirs, c'est une carte murale. Hein, ce sont des cartes, on appelle ça aussi cartes monumentales, c'est des grandes cartes murales. En termes de circulation des savoirs, vous allez me dire, c'est pas très évident. Évidemment, on prend pas le mur, on part pas avec. Mais pourquoi ça m'intéresse ? Parce que je crois que ça démontre l'hypothèse sur laquelle j'ai commencé, c'est-à-dire que l'intérêt de entités politiques comme la République de Venise à ce moment-là dans la géographie, c'est vraiment celle de pouvoir montrer ce qu'on sait. Alors là, on ne va pas le montrer par le biais d'une diffusion, à la différence des Navigazioni e Viaggi. Je vous ai illustré tout à l'heure brièvement la diffusion de ces volumes à échelle européenne. Là, on va le montrer en mettant sous les yeux. On met sous les yeux de ces visiteurs, je l'ai déjà dit, de ces visiteurs étrangers, de ces visiteurs de prestige parfois. Hein, on montre ce dont on est capable, ce qu'on est capable de savoir. Et à mon avis, on met aussi sous les yeux, et ça je pense que c'est la perspective de Ramusio, des Vénitiens eux-mêmes, en tout cas des patriciens, parce que le Palais des Doges n'était pas visité par n'importe qui. N'importe qui ne pouvait pas aller dans la Sala dello Scudo admirer ces belles cartes. Mais des patriciens eux-mêmes qui, selon Ramusio, se sont un petit peu endormis sur leur laurier, ont un petit peu oublié leur passé glorieux et leur montrer ce dont leurs contemporains, hein, je l'ai dit, c'est vraiment une représentation à ce moment-là d'extrême actualité, ce dont leurs contemporains sont capables, c'est aussi peut-être leur rappeler qu'il y a matière, qu'il y a des choses à faire en termes de connaissance du monde. Et alors là, ça va complètement tomber à l'eau du point de vue politique, hein, Ramusio a des élans de ce point de vue-là, d'incitation de ses contemporains vénitiens, là, à relancer leur politique explorateur, ce qu'ils ne feront pas du tout, ce qu'ils n'ont même plus déjà à ce moment-là la capacité de faire. Ils jouent pas, si vous voulez, sur le même terrain. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment toute cette ambiguïté de l'utilisation du savoir politique, maîtrise des savoirs, éventuelle application pratique et Alors, j'en ai pas trop parlé, mais il faut quand même le dire parce que c'est extrêmement important pour Venise. L'application pratique de ces savoirs-là pour Venise, c'est aussi une application commerciale. Et Ramuzio lui-même, je l'ai évoqué, avec quelqu'un comme Oviedo, par qui il est entré en contact grâce à Navagiero, il va monter une petite société commerciale de commerce du sucre entre l'Europe et les Caraïbes. Donc, c'est vraiment un mélange, un entremêlement de pure érudition, d'intérêt scientifique authentique, mais aussi d'intérêt politique, mais aussi d'intérêt commercial. Et c'est un petit peu ce qui fait, à mon avis, l'intérêt, la fascination du savoir politique, notamment en Italie, à ce moment-là, puisqu'encore une fois, l'Italie, elle est dégagée presque entièrement de tous ces enjeux conquistadors, territoire, gestion du territoire, que va avoir au contraire à gérer Charles Quint, mais aussi les Portugais, les Espagnols, enfin pas que Charles Quint, mais tous les rois d'Espagne pendant une très longue période. Venise, l'Italie n'a pas de colonies, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui en quelque sorte des colonies, mais a elle aussi, selon certains en tout cas, un rôle à jouer dans cette connaissance du monde et dans cette diffusion des savoirs. Voilà, je m'arrête là.